Ça me fait comme des aiguilles partout dans la tête.
Des sensations de brûlure intense sur les épaules, la nuque et le crâne, l'arrière du crâne.
La nuit, ça me met en mode on. J'ai l'impression qu'on a appuyé sur
un bouton de choc. Un documentaire de Marine Vestit.
Moi, j'ai commencé à avoir des insomnies il y a 11 ans maintenant. C'était le 30 janvier 2003. Du jour au lendemain, insomnie toutes les nuits. Je me réveillais pile toutes les nuits à 3h00, nuit après nuit. Je devenais dingue. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui se passe pile à 3h00 ? J'ai su très récemment qu'à 3h du matin, les opérateurs rebootent les antennes relais. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois qu'ils les éteignent et ils les remettent en marche. Et du coup, toutes les personnes électrosensibles se réveillent en sursaut à 3h du matin. Au début, j'avais l'habitude de me coucher à minuit et en me réveillant à 3h toutes les nuits, ce n'était pas possible. Donc petit à petit, je me suis couchée à 9h du soir. J'avais quand même néanmoins 6h de sommeil et je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Même assise là sur ce canapé, le fait de respirer me fatiguait. Donc là, je me suis dit, je suis juste en train de mourir, en fait, parce que c'est pas normal. Quelqu'un qui a plus de 100 ans soit fatigué de respirer, je peux comprendre, mais moi, à 47 ans, il y a un truc qui cloche, quoi. Quand j'allais voir les médecins, ils me disaient, ah ben oui, mais vous êtes déprimé, c'est pour ça. Je fais, ah bon, je suis déprimée, moi, ben non, c'est bizarre. Donc j'ai fait des années de psychothérapie pour finalement découvrir que ben, ça n'avait rien à voir et que j'étais pas dépressive. Et en fait, c'est une amie, il y a un petit peu moins d'un an, qui m'a dit « Mais dis donc, va voir les symptômes des gens EHS sur Internet. » Il y avait, je ne sais pas, 25 ou 30 symptômes. Et à la fin du document, il disait « Si vous avez 5 symptômes, posez-vous la question, est-ce que vous ne supportez pas les ondes ?» Bon, quand j'ai vu que j'en avais 14 sur les 15 premiers, je me suis dit « Oh là là !» Là, vraiment, ça craint. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le professeur Bellepomme. Bon, alors, lui, il n'est pas très tendre. Il m'a dit, si vous restez à vivre sur Paris, je vous prédis que dans moins de 5 ans, vous avez Alzheimer. Et votre tumeur à la tête, certainement, elle reprendra. Et ce n'est pas dit que ça se finira aussi bien. Et je lui ai dit, ouais, mais moi, franchement, j'adore mon métier. Je veux rester sur place, j'aime ma classe. Il m'a dit, ah non, mais après, c'est à vous de choisir, hein, vous mettez sur la balance votre carrière ou votre santé mentale et puis le fait de pouvoir élever vos enfants jusqu'au bout.
J'avais ma généraliste au téléphone et là, elle me dit débranchez votre box pour voir si ça fait quelque chose. Et je lui dis, ah bon, j'étais un peu sceptique. Et donc, j'ai dit d'accord et j'ai débranché. Et là, cette espèce de vertige de sensations de mal-être, d'incapacité à réfléchir clairement, ben ça s'est arrêté net au moment où j'ai débranché.
Quand j'ai su que j'étais EHS, j'ai eu un immense soulagement de savoir ce que j'avais. Parce que ça, c'est terrible de vivre au quotidien et de se dire, mais c'est quoi le problème avec moi ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi je suis insomniaque alors que tout va bien dans ma vie, j'ai pas de soucis ? Et pourquoi j'arrive plus à faire telle et telle chose que j'adorais faire, à faire du vélo et à faire de la randonnée, pourquoi je suis tout le temps fatiguée, et pourquoi je supporte plus la lumière et je suis obligée d'être dans ma classe avec des lunettes de soleil noires opaques, et pourquoi je supporte plus le bruit de mes propres enfants, et pourquoi je supporte plus plein de choses. Donc j'ai déculpabilisé en me disant « Ah ok, t'es pas folle, t'es pas dingue, c'est juste, voilà, ça a un nom, ça s'appelle l'électro-hypersensibilité. » Et en même temps, c'est extrêmement flippant parce que du coup, c'est une maladie. Moi, j'appelle pas ça une maladie, mais bon, tout le monde appelle ça une maladie qui est non reconnue, donc qui n'existe pas officiellement. Et donc, ça a été à la fois un immense soulagement pour moi de savoir ce que j'avais et à la fois de se dire, mais là, je suis en train de rentrer dans un espèce de no man's land, de trou noir.
Je me souviens très clairement avoir fait un espèce de rejet. Ça faisait 2-3 mois que je savais que j'avais cette allergie. J'éclatais en sanglots parce que je voulais que ça s'arrête. J'en voulais plus. J'acceptais pas du tout ça parce que c'était trop contraignant, parce que j'avais mal à la tête tout le temps. J'avais des problèmes de concentration tout le temps. Et je savais que c'était à cause de ça. Et, Et je me disais, mais je m'en sortirai jamais. On n'accepte pas du jour au lendemain. Et pendant des mois, j'ai mis en doute cette hypothèse. Surtout quand vous passez 2 jours sans rien sentir, vous dites, ah ça y est, c'est fini, c'est parti. Il y a eu des moments où je sautais de joie, je fais ça y est, c'est fini. Et hop, ça recommence. Et là, gros coup de déprime.
Bonjour. Ce matin, je suis allée faire les courses à la COP. Puis à un moment, moi, je me suis écartée parce que j'étais entre deux personnes. Et donc, il y avait un téléphone devant, un téléphone derrière. Et là, je tiens pas, quoi. Alors, je me suis écartée, puis un monsieur me dit, vous êtes pas bien et tout. Je dis, non, c'est les portables. Il dit, ah oui, j'ai mon portable qui est allumé, excusez-moi. Je sais pas s'il l'a éteint, mais je me suis reculée. Moi, j'étais dans mon petit coin, et puis elle m'a appelé quand c'était mon tour, la caissière. Ce soir, il n'y a pas trop de monde dans le bar. Je peux encore tenir à peu près. Je sens quand même ça ça charge là, au niveau des gens. Mais des picotements. Et avant, c'était carrément... maintenant que j'ai le traitement, je le sens plus. C'était carrément un casque au niveau de la tête, là. À l'arrière. Oui, ça faisait comme un étau dans la tête. Et c'était terrible. Je partais du boulot, mais j'étais vraiment une zombie, moi, je dirais. Parce que je savais plus où j'allais. Et quand je rentrais chez moi, je me couchais. Alors, c'est bien une vie comme ça, à mi-temps. Et quand on rentre, on va se coucher parce qu'on est crevé. On ne peut rien faire d'autre. Il y a eu un moment où j'ai même pensé au suicide. Hein, où à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on va devenir. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Au travail, par exemple... Il y avait une collègue, elle avait laissé le portable allumé sur la table à côté de moi. Et puis, elle m'entendait dire, ça faisait 3 quarts d'heure que je demandais aux étudiants d'éteindre les portables, elle m'entendait demander ça. Et puis à un moment, les étudiants se sont écartés et je lui ai dit, ah ça va mieux. Et là, elle m'a dit, oh dis donc, le portable il est allumé, ça fait depuis le début. Elle s'est foutue de moi, elle m'a mis dans une rage folle, ce qui fait que j'ai dit c'est plus possible, je peux plus aller au boulot, c'est pas la peine. Parce que même les collègues n'ont pas conscience que ça peut provoquer un problème chez moi. Et le lendemain, je suis partout au travail. Ah, ça y est, ça commence. On voit. Ah, il y en a deux. Quand j'étais dans la famille, il fallait pas que je me plaigne parce qu'ils avaient tout. Enfin, au départ, ils coupaient pas. Après, ils ont coupé, mais il y avait rien. Ils disaient, il y a rien. Et je continuais de sentir des choses. Même le téléphone en mode avion, j'arrive à le sentir. Je disais plus rien. Et un jour, j'ai fini, le téléphone a sonné. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, il s'est fâché, le copain de ma fille, il s'est fâché. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi, je dis rien, mais j'en ai marre, quoi. Ça fait longtemps, là, je dis plus rien, mais je souffre quand même. Je sens des choses, hein. Il y a un téléphone allumé. L'entourage était très, comment dire, très sceptique, ne me croyait pas. On me disait que c'était dans la tête, quoi. Et je suis allée voir 2 fois le psy. Le psy, la première fois, il m'a dit que j'avais pas très envie de... Parce que je lui disais que quand les étudiants s'approchaient, j'étais pas bien. Et quand ils se reculaient, ça allait mieux. C'était à cause des portables. Hein. Je n'osais pas dire que c'était les portables. Parce que, bon. Et du coup, il m'a dit, vous n'aimez pas trop le service public. Alors, je lui ai dit, écoutez, il faut être sérieux. Moi, j'adore les étudiants. Mais le problème, c'est que tous les appareils qu'ils ont avec eux, ça me gêne, quoi. Alors, il m'a envoyé voir le neurologue m'a envoyé voir le psy. Ah, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Au revoir.
Vous déplacez toujours à vélo ?
Ah ben oui, je peux plus prendre le métro, hein. Terminé. Je peux plus prendre le bus non plus. Je peux plus prendre le train. Quoi faire? J'ai pas de voiture, j'ai pas le droit de conduire. J'ai plus le droit de conduire non plus. Je vois plus assez clair alors. Bon, on se débrouille comme on peut. Hein. Du coup, je fais des économies. J'ai pas de place dans mes sacoches. Ah là là.
Je continue à prendre le métro et je sais que je vais en payer le prix après. En particulier dans la nuit où, même si je suis sous ma tente anti-ondes et que j'ai pris des médicaments pour dormir et que je suis dans la pièce la moins inondée de la maison, c'est-à-dire la salle de bain, je vais dormir qu'une heure ou deux au lieu de 3-4 heures parce que j'ai pris le métro avant. Donc c'est pour ça que je prends le métro de façon exceptionnelle quand je suis vraiment obligée.
Je sais plus comment faire parce que là je dois retourner voir Belle Pomme au mois de février, donc c'est bientôt. Alors, il faut déjà que je puisse y aller en covoiturage. Et là, ils ne rentrent pas dans Paris. Et ils me disent, on peut vous déposer au métro ou au RER. Je dis, bah ouais, mais ça ne fait pas parce que je ne peux pas prendre le métro. Parce que oui, j'avais rendez-vous le matin et puis, pof, on m'a changé mon rendez-vous et maintenant, j'ai rendez-vous le soir. J'ai dit à la secrétaire, mais comment je fais pour rentrer, moi? Eh ben, vous prenez le train. Eh ben, oui, mais je ne peux pas prendre le train.
À la rentrée, je pensais tenir 3, 4, 6 mois. Et j'ai tenu 2 semaines et demie. Je ne comprenais pas. J'étais vraiment très, très mal. Et j'ai compris après, c'était l'arrivée de la 4G. J'ai fait pas mal de bêtises dans mon travail. J'étais vraiment très, très embêtée. Alors que je voulais tenir le coup et je voulais rester au maximum. Et quand j'ai raconté à mon médecin ce qui se passait au travail, il m'a dit « Ah non, non, là, ça devient dangereux, je ne peux pas vous laisser continuer à travailler et je vous mets en arrêt maladie. » Donc ça nous donne encore plus envie de partir à la campagne pour que moi, je me repose loin des ondes et que je puisse reprendre le travail.
Je pense qu'à partir du moment où on arrive à travailler, ça devient acceptable. C'est le principal. Si je ne pouvais pas travailler à cause de ça... Là, ça serait vraiment insupportable, inadmissible, je serais très en colère.
En revenant des vacances de la Toussaint, en Corrèze et en Bourgogne, dans des endroits où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ondes, quand je suis revenue, j'ai eu très 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 mal à la tête pendant 3 jours et 3 nuits où c'était mais insupportable. Je prenais des médicaments, ça passait pas, c'était vraiment infernal. Et tout d'un coup, le 3e jour, je me suis dit « Non, c'est plus possible, je peux plus, où est-ce que je vais me mettre ?» Et je me suis souvenue que c'était dans la salle de bain, où il y avait le moins d'ondes dans la maison, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, je ne sais pas. Et donc, je me suis dit « Bah, tant pis, j'essaye. » J'ai mis un matelas par terre dans la salle de bain, et puis j'ai réussi déjà à m'endormir parce que ça faisait quand même 3 jours et 3 nuits que je dormais pas. Et non seulement je me suis endormie quelques heures, mais quand je me suis réveillée, j'avais plus mon mal de tête. J'ai réessayé à 2 reprises de retourner dans la chambre avec bien sûr toujours la moustiquaire anti-ondes. Et malgré ça, j'arrive pas à redormir. Ensuite, c'était pas très rigolo de dormir toute seule, donc mon conjoint a pété le placard de la salle de bain pour qu'on puisse mettre le matelas de place, donc entre le mur et la baignoire. Et en fait, il est resté quelque temps là, mais mon conjoint supporte pas de dormir sous la tente anti-ondes parce que le maillage est quand même assez serré. Et il a l'impression de se lever le matin fatigué parce que il dit qu'il respire son CO2. Donc du coup, il est reparti et je me suis retrouvée toute seule à dormir dans la salle de bain. Donc ça, c'est aussi un truc au niveau de la vie de couple, c'est pas très fun. Donc là, ça fait, 3-4 mois que je dors dans la salle de bain. Je me couche tôt parce que je suis très fatiguée, donc tout le monde passe prendre sa douche, ils vont aux toilettes... Et je suis là, allongée par terre dans la salle de bain.
Et au fait, on va aller voir ma chambre. Tu vas voir l'opération de fermeture. Alors, c'est pas chouette, hein. Mais bon, ça protège. Plafond, mur, partout, quoi, pour tout occulter. Depuis que j'ai fait ça, je vais beaucoup mieux. Et après, peut-être que tu verras une différence. J'ai une amie qui est venue un jour, je lui ai montré ma chambre, et puis j'ai fermé. Et une fois qu'on a eu fermé la porte, elle me dit, ah, on est bien. Donc, je prends mon petit bout de bois, là, hop. J'ai eu du mal avec cette fenêtre. Il y a un copain qui m'a aidé à faire ça, sinon je crois que je serais encore dans bien exposée dans les ondes, même la nuit, quoi. Et la nuit, c'est le plus important parce que c'est le moment où on récupère. Ah, c'est sportif parce que bah, il faut monter sur le lit pour bien fermer tout, quoi, et empêcher les ondes de passer. Du coup, c'est colmaté, j'ai rajouté jusqu'à temps de plus avoir. Et au début, je mettais des petits bouts, puis à la fin, j'ai pris un grand morceau parce que ça n'en finissait pas. C'est vraiment très compliqué. Alors, c'est du thermoflex, hein, celui-là, il n'a pas beaucoup de couches. Mais autrement, les autres, les parois, c'est du 14 couches. Et hop, et on redescend. Je me dis, bon, ben, pour le moment, j'ai 61 ans, ça va encore, je peux monter comme ça, mais je ne vais pas aller en rajeunissant. Hein. Et donc, je me demande si je ne vais pas tout enlever un de ces jours et puis mettre de la peinture anti-ondes.
Dans un premier temps, on a pensé blinder à fond la maison, mais c'est difficile avec les verrières qui sont immenses, là. En plus, la structure même de la maison est métallique, donc ça fait antenne, enfin, c'est très compliqué. Et puis moi, je me sentais pas de rester coincée chez moi 23 heures sur 24 avec une fenêtre d'une heure par jour pour aller faire les courses. Donc, on hésitait, et puis finalement cet été, en allant à la campagne, en vacances, on a trouvé un coin loin des ondes, une maison au fond des bois, parce que les arbres protègent des ondes, je sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Il n'y a pas énormément d'antennes parce qu'il y a peu de population, et surtout on a trouvé une maison sans voisins avant 3 km. Parce que le problème des voisins, c'est que tout le monde a du Wi-Fi maintenant. On y est allé 3 fois avec des appareils différents pour mesurer. Et à chaque fois, c'était bon. Entre 7 millivolts par mètre et zéro. Donc, on a décidé d'acheter là-bas. Pour moi, c'est difficile parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai ma famille en région parisienne, toutes mes amies. Et pour moi, c'est vraiment super embêtant de partir et de laisser tout le monde derrière moi. Et en plus, partir en emmenant mari et enfant avec moi, alors que eux, c'est même pas de leur faute. Donc c'est assez culpabilisant pour moi. Mais finalement, les enfants sont ravis de partir en forêt, étonnamment. Et mon conjoint, finalement, qui a toujours été un titi parigo, il est content aussi d'aller dans les bois. Donc il n'y a que moi qui fais un peu la tête. Et va falloir que je m'y fasse.
Ah ben nous voilà au Tabor. Là, on est mieux déjà. Là, on va aller chercher le coin des Ginkgo biloba. Ça devrait être bien. Ils sont un peu petits, les arbres, là. Il faut trouver des bons sujets. Les Ginkgo, c'est des bons sujets. Il y a plusieurs manières de se mettre à la terre. Quand on le fait avec l'eau, l'eau est conductrice, donc ça nous met à la terre. Et autrement, les arbres. On s'accroche aux arbres. On leur demande la permission d'abord. Après, on s'accroche et puis ils nous déchargent. Ils sont très généreux, ces arbres. Celui-là, il n'a pas l'air mal. Hein. On m'avait dit de choisir les chênes. Alors, il faut regarder au pied. Si on voit des glands. Parce que je ne sais pas reconnaître les feuilles des chênes. On va essayer celui-là, alors. Quand je vois personne, j'enlève les chaussures et les chaussettes. C'est encore mieux. Alors je lui demande, je me mets la permission. Oula, il me dit qu'il est d'accord. Ah, là, là. Ah, là, ouais. On va peut-être enlever le casque. C'est un peu gênant. Je me mets la tête, les mains contre l'arbre. Je l'en serre. Ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il me donne. Il me donne de tout son cœur. Ça me fait penser à Brassens. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces ondes. Voilà. Mais merci, toi. Peut-être je reviendrai te voir un jour. Un jour où il n'y a personne. Dans le parc. Voilà. Je remets les scratchs et voilà. Ah, c'est agréable, hein, quand même. Puis là, il n'y a personne, donc on est bien. Là, on est allé au bar l'autre jour, c'est exceptionnel. Quand je suis rentrée chez moi, vite fait, je me suis mise sous la douche. Hein, parce que ça n'allait plus.
Comment vous vous sentez après la mise à la terre?
Pas mal, ça va bien. Si, c'est mieux. En attendant de se recharger ailleurs.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
C'était Onde de choc, un documentaire de Marion Bastide. Arbre, musique Georges Brassens, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.
Ça fait partie de moi maintenant, ça devient naturel. Si un garçon ne peut pas vous parler sans regarder son smartphone en parallèle, bah voilà, l'histoire elle est déjà finie. Elle n'a pas commencé.